Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire, situation sécuritaire au Burkina Faso, les détachements militaires de Gaskindé et Pobé Mengao ont été attaqués hier. Selon un bilan fourni par l'état-major général des armées, 15 personnes ont été tuées et une trentaine de blessés au cours de ces deux attaques. Le gouvernement burkinabé dément la mort d'une centaine de civils rapportés par RFI et rassure l'opinion nationale et internationale que des investigations seront diligentées pour faire toute la lumière sur ces graves allégations. C'est officiel, en France, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec un résultat de 58,5%. Le président sortant devance Marine Le Pen, 41,5%. On fait le point dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Les détachements militaires de Gaskindé et Pobé Mengao dans la province du Soum, région du Sahel, ont été les cibles d'attaques terroristes hier dans la matinée. Le bilan fait état de 9 militaires, 4 civils et 2 volontaires pour la défense de la patrie tués, a annoncé hier l'armée dans un communiqué. Le point avec Brigitte Yoda.
15 personnes ont été tuées tôt dimanche dans 2 attaques simultanées à Gaskindé et Pobé Mengao dans le Sahel. Selon le communiqué de l'état-major, ces 2 attaques qui se sont déroulées de façon quasiment simultanée ont visé à la fois les détachements militaires et les populations civiles. La première attaque, celle de Gaskindé, a fait 9 morts, 5 militaires, 4 civils et 15 blessés, affirme l'armée. L'attaque de Pobé Mengao a, elle, causé la mort de 6 personnes, dont 4 militaires et 2 volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Selon toujours le communiqué, une quinzaine de personnes ont également été blessées. L'armée rassure que la situation dans ces 2 localités est actuellement sous contrôle et des opérations de sécurisation sont toujours en cours. L'armée dit réaffirmer sa détermination à poursuivre le combat, quoi qu'il en coûte, pour permettre aux populations des localités menacées par les terroristes de reprendre le cours normal de leur vie.
Plus d'une centaine de civils auraient été tués lors des exactions des forces armées. C'est le titre d'un article publié par Radio France Internationale vendredi 22 avril dernier. Dans cette publication, RFI fait l'écho des suspicions de bavures ayant causé 100 morts par les forces armées nationales dans certaines localités de l'Oudalan, où des soldats burkinabés ont tué tous les hommes, y compris des adolescents. Suite à cette publication, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, réagit. Il était l'invité du journal de 20h à la télévision nationale.
Effectivement, c'est avec stupéfaction que l'armée burkinabé a eu connaissance justement de ces allégations. Et immédiatement, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, il y a eu un communiqué où l'armée en tout cas condamne avec énergie ces allégations. Et il faut savoir que pour le gouvernement burkinabé, notre armée est en lutte contre une guerre terroriste depuis des années. L'armée ne tue pas de civils, au contraire, son rôle est de protéger les civils, c'est de garantir l'intégrité du territoire. Toute opération qu'elle mène en ce moment va à l'encontre justement de ces terroristes-là et pour le bénéfice des civils. Et donc nous sommes très surpris par ces allégations. Le gouvernement condamne ces allégations, refute ces allégations et trouve dommage justement qu'au moment où le Burkina Faso fait face justement à cette guerre terroriste, où l'armée est en train de déployer avec courage et détermination sa stratégie pour reconquérir le territoire, qu'il y ait ce genre d'allégations-là.
Sur la question du dialogue annoncé avec les groupes armés, Lionel Bilgo donne plus de précisions et se veut on ne peut plus clair. Il s'agit de dialoguer et non de négocier avec les groupes armés. Nous l'écoutons.
Non, le gouvernement n'a jamais parlé de négociation. Le gouvernement a parlé de dialogue. Il faut comprendre une chose. Le terrorisme, pour nous, est un terme générique à l'intérieur duquel il y a plusieurs facettes. Dans ce terrorisme-là, dans certaines localités, vous avez un conflit ethnique. ouvert. Dans d'autres localités, vous avez un grand banditisme. Dans d'autres localités également, vous aurez un conflit porté par des idéologies quelconques et qui ne prospèrent pas forcément et qui ne vont pas faire prospérer sur notre territoire. À partir de ce moment-là, depuis un certain temps, dans plusieurs localités, des communautés sont en train de se battre, de discuter, de dialoguer avec certains des frères qui ont pris les armes contre leur pays. Plus de 80% de ceux qui luttent, qui tuent, qui sème la terreur sur notre territoire sont des Burkinabés. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez quand, dans le désarroi total, des communautés, des sages, des chefs religieux et coutumiers se donnent la main pour créer le canal du dialogue afin de permettre à certains Burkinabés pris en étau dans cette guerre terrorisme-là, soit embrigadés de force ou bien qui ont subi des drames terribles au point de se rébeller contre leur propre pays, de revenir à la maison. Ces dialogues existaient depuis longtemps. C'est sous l'égide de son Excellence le président Paul-Henri Sandaogo que ce gouvernement-là a décidé de s'assumer, de reconnaître ces initiatives de dialogue-là, de permettre à ces initiatives de dialogue, justement, d'aller de l'avant et surtout de les encadrer et de leur donner une base normée et normative pour leur permettre justement de mener à bien ces discussions-là. Les communautés ne nous ont pas attendus. Quand vous allez dans la localité de Markoy, quand vous allez justement dans la localité de Djibo, où les fils et les filles du Burkina Faso se regardent en chien de faïence, parce que les terroristes sont connus, ils ont des familles, ils ont des maisons, ils sont parfois identifiés, reconnus, ils fréquentent les marchés, les villes de ces localités-là. Et quand les sages, avec les chefs coutumiers religieux, veulent se mettre ensemble pour justement permettre de désendoctriner ou en tout cas de donner une porte de sortie à ceux-là qui regrettent d'avoir pris des armes de revenir à la maison, je pense qu'il est de notre devoir d'essayer toutes les formules possibles. Et nous ne gagnerons pas cette guerre-là que par les armes, nous le savons. Et c'est maintenant que nous devons commencer justement à imaginer ensemble, dans une synergie commune, à faire en sorte justement que beaucoup de Burkinabés déposent les armes et qu'ils arrêtent justement de semer la terreur dans leur localité.
Tout autre chose dans ce journal, chaque 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, au Burkina Faso, cette journée marque les acquis et les mérites du professeur Alidou Tinto qui a pu expérimenter le vaccin contre le paludisme dans la commune rurale de Nanoro. 75% de protection, c'est le résultat que révèle ce vaccin injecté aux 1200 enfants en 2021. Au regard de ces résultats, le vaccin pourrait être mis sur le marché afin de protéger les enfants de moins de 5 ans du paludisme. Allons à la découverte de ce vaccin à Nanoro avec Chalda et Soumina Traoré.
L'unité de recherche clinique de Nanoro, le nouveau souffle d'une population terrifiée par le paludisme. Créée depuis 2009, cette unité de recherche clinique de Nanoro s'est donnée pour mission éradiquer le paludisme à travers un vaccin du nom de R21 et stopper l'avancée des autres maladies infectieuses ou non infectieuses à travers une recherche clinique rigoureuse répartie en 3 laboratoires qui sont tous gardés à des températures glaciales inimaginables, supervisées par plusieurs équipes médicales, tous des professionnels de santé.
On a au total, je dirais 3 laboratoires, parce que il y a le laboratoire de biologie clinique, et cela nous l'avons dans 2 stations, la station de Nanoro où nous sommes et la station de Siglé. Ça veut dire le rôle de ces laboratoires-là, c'est de diagnostiquer les maladies. Ce n'est pas seulement le paludisme. Et le paludisme est notre domaine de prédilection, mais nous travaillons sur beaucoup d'autres pathologies. Nous travaillons sur les infections bactériennes, par exemple. Nous travaillons sur les maladies cardiométaboliques. Donc, le rôle de ces laboratoires-là, de biologie clinique, c'est de poser des diagnostics et de suivre les malades ou en tout cas les participants à nos études, que ce soit vaccins, médicaments, etc. On appelle ces laboratoires des laboratoires de biologie clinique. Et là, nous en avons 2, à Nanoro et à Siglé. Ensuite, nous avons le laboratoire de recherche, qui fait beaucoup plus du fondamental, qui essaie de comprendre tous les mécanismes qui sous-tendent l'action de ces médicaments ou l'action de ces vaccins-là dans l'organisme de l'homme, avec l'isolement, par exemple, des cellules du sang, qui permet de suivre justement l'évolution de ces enfants-là qui sont vaccinés.
Cet homme, le professeur Tinto, tombé dans l'ivresque de la recherche, refuse tous les avantages d'une médecine de bourgeoisie pour ne s'adonner rien qu'à la recherche clinique dans une commune rurale située à une centaine de kilomètres de la capitale. Une décision née de l'amour propre pour son pays. Il consacre alors sa carrière dans la lutte contre le paludisme.
J'ai fait toute ma carrière dans la recherche sur le paludisme, depuis ma thèse de pharmacie jusqu'à mon doctorat unique. J'ai préalablement travaillé sur la médecine traditionnelle, l'utilisation de la médecine traditionnelle dans le traitement du paludisme, pour essayer de voir si je pouvais isoler des molécules à partir de nos plantes à partir des plantes que les gens utilisaient pour traiter le paludisme dans les villages. Après cela, j'ai évolué progressivement parce que après j'ai séjourné au Danemark où j'ai appris certaines techniques d'isolement de molécules, etc. Mais là, l'idée m'est venue de glisser un tout petit peu pour m'intéresser à la résistance, pour comprendre. Mais si je suis en train de chercher de nouvelles molécules, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'était quoi? C'est que le parasite résistait au traitement qui existait, notamment la chloroquine. Et donc, j'ai évolué et j'ai pu quand même faire certaines démonstrations très intéressantes. Et c'est à travers nos travaux sous la direction du professeur Tengah Robert Yigende, qui est notre maître, qui nous a tous formés. Et c'est à travers ces travaux-là que nous avons montré que la chloroquine ne marchait plus au Burkina.
Le Burkina, à travers l'unité de recherche clinique de Nanoro, va expérimenter pour la première fois dans son histoire un vaccin contre le paludisme. Les résultats de cette étude, d'abord de 30% en sa première phase, passent à 75% en sa deuxième phase, ce qui atteste que le vaccin contre le paludisme concernant les enfants de moins de 5 ans pourrait être mis sur le marché. Mais pour confirmer ces résultats, 1200 enfants ressortissants de Nanoro, commune rurale située dans la région du centre-ouest, ont été vaccinés depuis 2021.
Alors, ces enfants seront suivis pendant 2 ans. Mais déjà, nous souhaitons, au bout d'une année de suivi, regarder un peu les résultats. Et si ça va dans la bonne tendance, ça veut dire en termes de sécurité et d'efficacité, il s'agira pour nous de demander peut-être une utilisation temporaire de ce produit en attendant que le processus de la phase 3 s'achève à l'horizon 2024.
Cette expérience vaccinale faite sur ces enfants inquiète les parents qui sont tout de même rassurés grâce à la prise en charge sanitaire.
Pas de médicaments, quoi. On prend tout en charge. Même s'il y a des examens à faire, ils s'occupent de tout et tous. Non, on est venu, on a fait la consultation. Ils ont fait des prélèvements. Actuellement, j'attends les résultats.
C'est une première dans l'histoire de l'humanité qu'un vaccin contre le paludisme atteigne une protection de 75% dans le corps de l'homme. Ces performances sont les résultats d'une passion que nourrissait le professeur Alidou Tinto depuis les débuts des années 2000. Aujourd'hui, le vaccin contre le paludisme pour les enfants de moins de 5 ans est devenu une réalité et sera pour bientôt disponible. Le rêve, l'envie de faire des recherches cliniques est loin d'être fini pour le professeur Tinto qui prévoit très prochainement un produit curatif du paludisme pour les femmes enceintes, les adultes et les plus jeunes. Son engagement à bouter le paludisme hors du Burkina lui a valu plusieurs prix à travers le monde entier.
Merci à Charles Da et à Soumina Traoré pour ce reportage. Mot de culture dans ce journal, le comité d'organisation de Gazawaga était face à la presse vendredi dernier pour annoncer les couleurs de l'édition 2022 du festival Gazawaga qui marque ainsi les 30 ans de l'événement. Cette 30e édition se tiendra du 29 avril au 7 mai 2022, principalement à l'Institut français et sur d'autres sites. Cette année, des innovations ont été introduites et des artistes de renom sont attendus à cet événement musical. Le compte-rendu de Laetitia Bayala avec la voix de Moumouni Tamboura.
Le festival Gazawaga offrira durant 9 jours des moments magiques aux milliers de festivaliers pour ses 30 ans d'existence. Une édition qui s'annoncera sous les tropiques de la musique africaine, caractérisée par des rythmes diversifiés. Cet événement investira principalement le site de l'Institut français de Ouagadougou à la Place de la Nation et bien d'autres espaces culturels de la capitale burkinabé avec de grands artistes nationaux et internationaux. Abdoulaye Diallo, président du comité d'organisation de Gazawaga.
L'ouverture officielle, c'est le 29 avril à l'Institut français, ici à partir de 19h, avec une jam amicale qui sera suivie à 20h30 du concert d'ouverture. Les artistes invités pour ce concert d'ouverture, c'est Patrick Cabré du Burkina Faso et le grand Cheikh Tidiane Seck. Voilà, une fois que c'est ouvert, le 30 avril, on est à l'Institut français, c'est la journée internationale du jazz. Ensuite, le 1er mai à l'Institut français. Le 2 et 3, nous sommes dans d'autres lieux de promotion de la musique.
Pour le président du comité d'organisation Abdoulaye Diallo, Gaz Awaga a engrangé beaucoup de résultats en 30 ans d'existence. Ces résultats qui auront contribué à l'essor de la culture burkinabé.
Déjà, il faut dire le fait d'arriver à faire 30 ans, pour nous déjà c'est un gros résultat. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui font 30 ans. Donc déjà c'est un gros résultat de pouvoir tenir pendant 30 ans et de continuer à donner une programmation aussi riche. Donc ça c'est déjà un gros résultat. Je pense qu'en termes de résultats, il y a beaucoup d'artistes burkinabés qui ont vu leur carrière décoller grâce à Gaz Awaga. On a formé beaucoup d'artistes, on a permis à beaucoup d'artistes de pouvoir mener une carrière personnelle. On a aussi investi l'intérieur du Burkina Faso pour apporter de l'espoir, de la musique live de qualité dans les régions les plus reculées du Burkina Faso.
Selon Abdoulaye Diallo, ce festival connaîtra assez d'innovations à ce 30e anniversaire. Au nombre des innovations, il y aura un village Gaz Awaga sur 4 jours au niveau de la place de la Nation, une conférence sur l'histoire du gaz, les opéras Gaz à 19h tous les soirs à la Cafette. Le budget alloué pour l'organisation de cet événement est estimé à 95 millions de francs CFA.
Je vous l'annonçais en titre, à l'international, c'est officiel, en France, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec un résultat de 58,5%. Le président sortant devance ainsi Marine Le Pen avec 41,5% des voix après le dépouillement complet des bulletins. L'extrême droite atteint son plus haut niveau historique dans une élection présidentielle. Le taux d'abstention est de 28%. Justement, nous écoutons Emmanuel Macron juste après sa victoire.
Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
Dans le camp de la patronne du Rassemblement national et dans les autres camps politiques en France, les réactions ne se sont pas faites attendre. Écoutez quelques déclarations avec Brigitte Yoda.
Jamais je n'abandonnerai les Français, a lancé Marine Le Pen après sa défaite. La patronne du Rassemblement national s'est malgré tout félicitée de ce score.
Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez.
Troisième du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est félicité de la défaite de Marine Le Pen, mais n'a pas épargné Emmanuel Macron.
Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé.
Le candidat reconquête à la présidentielle Éric Zemmour a appelé le Bloc national à s'unir et à se rassembler pour les législatives et a fait part de sa déception après la réélection d'Emmanuel Macron.
Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Les élections législatives qui viennent en juin prochain voient déjà la constitution de deux grands blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Deux blocs qui s'organisent, se rassemblent. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler.
Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, a félicité dimanche le président Emmanuel Macron pour sa réélection, mais s'est inquiétée d'un score inédit du Rassemblement national et des fractures divisant la France.
Les réactions se sont également multipliées à travers le monde. Quelques déclarations à l'international avec Charles Da.
Sur le continent africain, c'est le président nigérien Mohamed Bazoum qui a été le premier à saluer la réélection de Emmanuel Macron, qu'il qualifie de partenaire sérieux dans la lutte contre le terrorisme. Son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme, a écrit Mohamed Bazoum sur Twitter. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accueilli avec bienveillance cette réélection. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe, a-t-elle écrit en français. Le chancelier allemand voit également en cette réélection comme une nouvelle positive pour l'Europe. Olaf Scholz, qui s'est adressé directement à Emmanuel Macron, a dit, je cite, « Je suis heureux que nous poursuivions notre bonne coopération ». Fin de citation.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Adama Konaté à la présentation. Je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.